Bonsoir chers amis, nous voici maintenant donc à notre troisième séance sur la patristique et nous allons aborder la question de Saint Athanase. Mais avant d'aborder Saint Athanase, je voudrais vous parler de personnages qui ont joué un rôle très important. Je veux dire Arius d'une part et Eusèbe de Césarée d'autre part. Vous allez me dire, mais ça a l'air compliqué tout ça. Oui, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que bon, il va y avoir des disputes, on va employer un vocabulaire compliqué, mais au fond, ce n'est pas si compliqué que ça. Et je voudrais vous dire qu'il y a un fil à plomb dans toute cette théologie des pères, il y a une ligne directrice qui rend les choses très claires et très simples, je crois, et je vais vous la donner. Cette ligne directrice, à mon sens, c'est la compréhension que les pères ont de l'incarnation. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il est question de la divinisation, avec un petit dé, par grâce, évidemment, de l'homme, de la participation de l'homme aux énergies divines. Et pour que cette divinisation ait lieu, eh bien, il faut que le Christ soit Dieu. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas diviniser la personne. De la même façon, le Christ envoie son Esprit Saint. Il envoie l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'est pas Dieu, eh bien, lui aussi, il ne peut pas diviniser par ses énergies la personne humaine. Donc, au fond, si vous voulez, tout tourne autour de la question de la divinisation. C'est très important. Et l'on peut dire que c'est ce qui caractérise la pensée des pères et de l'Église dans son ensemble. Si l'on sépare dans le Christ la nature humaine de la nature divine, si l'on fait du Christ une sorte de héros, eh bien, à ce moment-là, il n'est impossible que l'homme participe à la nature divine. C'est une tendance en Occident. C'est pour ça que les pères insistent toujours sur le caractère divino-humain du Christ. Le cadre dans lequel l'action va se situer maintenant, c'est l'Égypte. Nous en avons parlé un petit peu, mais je crois qu'il serait bon que vous téléchargiez les cartes, la carte de l'Égypte, de l'Égypte monastique, qui est disponible sur le site Apostolia et avec les conférences sur Saint Jean Cassien. Cette carte, vous voyez, de l'Égypte nous montre un pays qui se concentre bien sûr autour de la vallée, mais qui est aussi constitué par un ensemble important qui est le delta et par Alexandrie qui est l'unique capitale de l'Égypte, qui est le lieu où réside le patriarche. Alexandrie qui va jouer un rôle très important dans la centralisation de l'Église égyptienne, dans la mesure aussi où les évêques, par exemple, sont nommés par le patriarche. C'est-à-dire que le patriarche a toujours une importance, une influence directe sur l'ensemble de l'Église égyptienne. C'est ce qui explique d'ailleurs peut-être un schisme, le schisme qui va avoir lieu avec Mélitios, évêque de Lycopolis. Lycopolis, c'est ici. Schisme qui a des origines obscures, mais il est clair que c'est aussi, sans doute, en réaction à cette centralisation par le patriarche d'Alexandrie. Je voudrais vous présenter aussi un certain nombre de termes qui vont être employés dans le cours et que l'on va retrouver à plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la liste de ces termes qui sera disponible avec donc la conférence sur le site Apostolia. Donc vous avez un petit vocabulaire et vous avez d'abord deux termes qui vont par pair. L'économie, qui désigne en quelque sorte l'action de Dieu dans le monde et aussi l'œuvre du salut entreprise par Dieu. La théologie, qui, lorsqu'elle est employée avec l'économie, désigne plutôt les relations des personnes divines entre elles. C'est-à-dire qu'il y a une certaine séparation, entre guillemets, entre théologie et économie. Théologie, dans ce sens-là, c'est plutôt les personnes divines et leurs relations. Économie, c'est plutôt ce qui est à l'extérieur des personnes divines, c'est-à-dire dans le monde et dans l'histoire. Deuxième terme aussi important, c'est le modalisme. Le modalisme, ça veut dire que finalement, l'incarnation est conçue de façon hétérodoxe, comme une sorte de mode de relation entre le Père et le Fils. On distingue le monarchianisme, dans lequel le Logos est Dieu lui-même, révélé en Jésus-Christ, et non pas une seconde personne. L'adoptionnisme, dans lequel le Fils, au fond, n'est qu'un homme adopté par Dieu. Le sabellianisme, S-A-B-E-2-L-I-A-N-I-S-M-E, parce qu'il dérive du nom de Sabellius. Sabellianisme, pour lequel les trois personnes divines ne sont que des modes de manifestation de l'unique divinité. Donc ça, c'est pour le modalisme. Une paire aussi importante pour le vocabulaire, c'est la paire hypostase et oussia, ou oussia en grec. Les deux termes ont fait l'objet de beaucoup de discussions, et là je vous donne leur sens final, c'est-à-dire le sens tel qu'il va être adopté, tel qu'il va être formalisé par les discussions, au cours des discussions, et surtout par les Cappadociens. Hypostase, c'est la personne divine, donc après toute cette discussion, et l'ousia, c'est l'essence ou la substance divine. Enfin, un vocabulaire propre, disons, au concile de Nicée et à sa réception. Je vous présente juste quelques mots qui vont ressurgir ici et là. Nicée, vous le savez, c'est en 325, et il va y avoir toute une série de prises de position par rapport à ce concile. Homo ousion, qui veut dire que le Père et le Fils ont la même homo ousia, essence, ils sont consubstantiels, c'est la position du concile de Nicée. C'est ce qu'on appelle l'homo ousion de Nicée. Après cela, vous avez les Homéens, H-O-M-E-E-N-S, pour qui le Fils est seulement semblable en tout au Père, sans être consubstantiel. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toute cette liste à disposition sur le site. Ils semblèrent l'emporter à Sirmium en 359. Les Anoméens, A-N-O-M-E-E-N-S, sont vraiment des Ariens, c'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de ressemblance entre le Père et le Fils. Pour eux, le Père et le Fils sont sans ressemblance selon les sens. Ils vont triompher vers 360, mais ils seront supplantés par un autre groupe qu'on appelle les Homéousiens, H-O-M-E-O-U-S-I-E-N-S, qui sont des modérés. Pour eux, le Fils est semblable selon les sens au Père. Voilà. Donc, vous avez cette liste. Inutile de vous formaliser. Vous aurez cette liste, encore une fois, à disposition sur le site. Simplement, je préférerais vous présenter ce vocabulaire parce qu'il va revenir dans l'exposé que je vais faire. Le personnage dont je vais vous parler maintenant, c'est évidemment Arius. Arius est... Ces dates, c'est environ 256 jusqu'à 335. Arius, A-R-I-U-S. Et on peut considérer que pratiquement toute l'action, toute l'œuvre de saint Athanase va être dominée par sa lutte contre Arius et l'Arianus. Il est d'origine sans doute libyenne. Il fit ses études à Alexandrie, puis à Antioche, avec un certain Eusèbe de Nicomédie, et auprès de Lucien d'Antioche. Ce Lucien d'Antioche était connu pour une version de la Septante, ce qu'on appelle la recension lucianique, qui est très intéressante. On trouve en particulier dans cette version des textes bibliques qui sont plus anciens que ceux transmis par la version hébraïque massorétique de la Bible. Il ne faut pas vous étonner, la version massorétique biblique hébraïque de la Bible dont on dispose actuellement a été formalisée, mise par écrit relativement tard. Les manuscrits dont on dispose, je crois que le plus ancien date du Xe siècle de notre ère, alors que la version grecque des Septante est antérieure au christianisme. Elle a été réalisée sous les Ptolémées. Et donc, elle se réfère parfois à des textes, à des traditions textuelles qui sont plus anciens que les textes de la version hébraïque. Donc ce n'est pas parce que la Bible est en grec qu'elle est plus nouvelle, plus récente, mais on trouve des textes plus anciens. L'école d'Antioche était très portée vers l'étude des textes bibliques à la suite d'Origène. Effectivement, lorsqu'Origène s'est réfugié en Palestine, il a lancé une école d'interprétation, de lecture de la Bible, avec, en particulier, il avait mis au point une version qui comprenait 6 colonnes, d'une part le texte hébraïque, et d'autre part les différentes versions ou traductions grecques de ce texte. Donc on a affaire à un véritable travail d'érudition qu'on a appelé aussi les hexaples, H-E-X, APLES, les exaples d'Origène. Et toute cette école va travailler, continuer le travail lancé par Origène, qui est un véritable travail d'érudit et de savant. Arius va donc participer à cette école. Et de retour à Alexandrie, il va rejoindre le schisme de Mélitios, M-E-L-I-T-I-O-S, donc, qui était évêque de Lycopolis. Vous l'avez ici sur votre carte, si vous la tirez. Lycopolis, vous voyez, c'est ici. Actuellement, c'est en Moyenne-Égypte. C'est à la limite de la Moyenne-Égypte et de la Haute-Égypte. C'est la ville qu'on appelle actuellement Assiout. Le schisme de Mélitios a regroupé un certain nombre d'évêques et a été un grave problème pour l'Église d'Égypte. Son origine n'est pas très claire, enfin je veux dire l'origine du schisme. On a pensé à l'origine qu'il s'agissait peut-être d'une question liée à l'acceptation ou non dans l'Église de ceux qui avaient cédé aux pressions au moment des persécutions. Les historiens plus récents ont remis en question cette interprétation. Je pense notamment à une dame qui s'appelle Annick Martin, qui a écrit une thèse sur Athanase. Et donc, l'origine, pour l'instant, est peu connue. De toute façon, ce qui est certain, c'est que ce schisme va déchirer profondément l'Église d'Égypte. Arius va être excommunié en 305. Il va revenir à l'Église. Il va recevoir une paroisse à Alexandrie. C'est le patriarche Alexandre qui va donc le recevoir. Mais son enseignement va scandaliser et il va être dénoncé. Du coup, Arius va défendre sa doctrine avec plus de vigueur et elle va se répandre. Alexandre va être obligé à ce moment-là de réunir un synode à Alexandrie qui va condamner Arius et ses partisans. Du coup, Arius va quitter Alexandrie, il va se rendre en Palestine où il a de nombreux partisans et il connaît aussi Eusèbe de Césarée qui lui est favorable et il va y avoir des synodes locaux qui vont lui donner raison. À ce moment-là, l'empereur, qui est donc Constantin en 324, a vaincu, donc il a vaincu Licinius, qui dominait l'Orient, donc il est l'empereur unique de l'Empire, et l'empereur est informé de la controverse. Il écrit à Arius et à Alexandre, le patriarche, en leur demandant de trouver un compromis. Il envoie l'évêque Ossius à Alexandrie, où Alexandre le convainc de la justesse de sa position. Donc un premier concile se réunit à Antioche et condamne Arius et on proclame que le Fils est engendré, non créé et éternel. C'est alors que l'empereur, devant l'ampleur du problème, va convoquer un concile général, qui est le concile œcuménique, dit de Nicée, en 325. Et les pères du concile vont condamner Arius, proclamer un symbole de foi qui va être complété par un anathématisme. Je vous le lis. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, ectis usias tu patros, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une seule substance avec le Père. C'est le fameux homoousios, par qui toutes choses sont venues à l'être. Mais quant à ceux qui disent « il y eut un temps où il n'était pas, et avant qu'il ne naisse, qu'il n'était pas, il a été fait à partir du non-être », et qui prétendent que le Fils de Dieu est d'une autre hypostase aussi que le Père, ou qu'il est changeant et muable, l'Église catholique les anathématise. Le mot « homoousios » signifie ici simplement que le Père et le Fils ont la même nature. On n'en est pas encore arrivé à la conception de « un » en nature, comme le mot « homoousios » en viendra à signifier plus tard. Le Concile affirme donc l'unité d'essence des personnes divines ainsi que leur distinction réelle en tant que personnes. Mais les termes employés par les pères font difficulté. Effectivement, en latin, hypostase était considéré comme étant la traduction de substantia, et donc comme un synonyme d'essentia, qui était considéré comme l'équivalent du grec ousia. Ce qui veut dire que lorsque l'on dit que le Père et le Fils sont homoousios, on peut, si on ne fait pas attention au sens du terme, on peut comprendre qu'il s'agit d'une sorte de sabellianisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes divines ne sont que des modes de manifestation de l'unique divinité, un modalisme. C'est pourquoi les Occidentaux considéreront longtemps que les Nicéens stricts sont des sabellianistes. Sabellius fut condamné à Rome vers 220, et plusieurs sources lui attribuent la création d'un composé Uiopator, fils père, pour désigner le Dieu unique. C'est une forme de modalisme, Dieu est simple et indivisible, il s'appelle Logos en tant que créateur, Esprit en tant que sanctificateur, Père en tant que législateur, Fils en tant qu'incarné. Et l'ambiguïté du mot « ousia » permettait d'en faire un équivalent du mot « hypostase ». Comme d'ailleurs l'entendaient les Sabelliens qui confondaient les personnes divines. Donc vous voyez que les choses n'étaient pas réglées. Et Arius va refuser de se soumettre au concile de Nicée, et l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, mourut en 328, et c'est Athanase, saint Athanase d'Alexandrie, qui va le succéder alors. Mais l'Orient ne comprend pas bien encore cette définition. Arius et ses partisans ne cessent de s'agiter. Beaucoup d'évêques n'avaient souscrit au co-substantiel que sous la pression de l'empereur. Et en 330, un concile qui va se réunir à Antioche va déposer de nombreux évêques nicéens. Constantin va convoquer alors un autre concile à Nicomédie en 335. Arius va présenter une profession de foi habile. Athanase, qu'on accuse de violence et d'avoir aussi entravé le ravitaillement de l'Empire, va être déposé et condamné à l'exil. Arius meurt peu après le concile, et l'empereur mourut en 337, mais la controverse arienne va se poursuivre avec violence. Après la mort de Constantin en 337, Athanase, Saint Athanase devient un obstacle, en fait, incontournable pour tous les évêques, toute la coalition qui était hostile au siège alexandrin. Il cherche à annuler les décisions de Nicée. Athanase va dénoncer globalement ses adversaires comme ariens. Mais en fait, je vous avais vu que parmi ce vocabulaire, entre les homéens, anoméens et homéoutiens, il y a de grosses nuances. Donc, comme je vous l'ai dit, on distingue les homéens, H-O-M-E-E-N-S, pour qui le fils est seulement semblable en tout au père, sans être consubstantiel. Les anoméens, qui sont les plus intransigeants, pour lesquels le fils et le père sont différents, et les homéoutiens, pour qui le fils est semblable selon les sens. Les homéoutiens, vous voyez, sont assez proches, finalement, des homoousiens, c'est-à-dire des Nicéens, et c'est avec eux que Saint Athanase finira par conclure un accord qui va se concrétiser avec l'avènement de Théodose en 380. La conception d'Arius est la suivante. Il y a un dieu qui est inengendré et sans principe. Le fils est créé du néant, il n'est donc pas dieu. Il y eut un temps où il n'était pas. Pour Arius, la Trinité naît partagée par des intervalles de temps, ce qu'on appelle des diastimas, des intervalles de temps, et les personnes ne sont pas coéternelles, mais dissemblables entre elles à l'infini. C'est une sorte de société de trois êtres dissemblables. On a vu dans le cours précédent que la philosophie a souvent été utilisée par les partisans de l'arianisme et aussi des autres hérésies. D'ailleurs, on peut dire que globalement, la philosophie a été utilisée par tous les adversaires du christianisme, puisque les païens vont utiliser la philosophie, les ariens vont utiliser la philosophie à différents niveaux. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que la pensée grecque répugnait à l'idée d'un dieu fait homme. Le dieu, et surtout à l'époque où on avait la notion commune, si vous voulez, de dieu, était un dieu qui était un être transcendant au-delà du monde des sphères, avec les planètes, et ce monde qui était soumis au changement et à la corruption. Arius va aussi avoir recours à des textes bibliques. Un texte qui va être beaucoup discuté, c'est celui de Proverbe 8, 22, dans la version de la Septante, où l'on dit de la sagesse « Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies. » Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies. C'est Proverbe 8, 22. Deuxième texte qui va être très discuté, c'est celui de Jean 14, 28, où le Christ dit « Le Père est plus grand que moi ». Comment les pères vont-ils interpréter ces textes ? Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas des proverbes, une interprétation, c'est par exemple celle de Justin et d'Origène, pour lesquels le verset évoque la génération du Fils de Dieu, et donc son incarnation. Une autre tradition très fréquente que l'on rencontre chez Saint Athanase, y voit le corps du Christ Donc à ce moment-là, on prend le sens de créer au sens strict du terme. Le corps physique et l'Église. Et par exemple, saint Athanase dira, de la même manière, lorsque nous entendons dans les proverbes l'expression « il m'a créé », nous ne devons pas comprendre que le Verbe serait tout entier créature par sa nature, mais qu'il a revêtu un corps créé et que Dieu l'a ainsi créé pour nous, en lui formant pour nous ce corps créé selon ce qu'il est écrit, afin que nous puissions être renouvelés et dignisés en lui. C'est donc bien le corps du Christ qui est fondamental ici, et c'est par ce corps du Christ que l'homme est divinisé. Quant au deuxième verset, celui de Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi », les pères en viendront à le comprendre essentiellement comme se référant au fait que, au sein de la Trinité, le Père est seule cause. C'est le Dieu source, il engendre le Fils, l'Esprit procède du Père, donc le Fils et l'Esprit ont une cause, alors que le Père est sans cause. Et donc les Pères admettent qu'il y a une certaine prééminence du Père en ce qu'il est sans cause et seule cause au sein de la Trinité. La plupart des écrits d'Arius ont été détruits. Il nous reste quelques écrits, lettres à Eusèbe de Nicomédie, etc. Un écrit un peu polémique qui est la Thalie, T-H-A-L-I-E, dont des fragments nous ont été conservés. Mais surtout, Arius avait répandu sa doctrine sous la forme de petits libelles, de petites pièces versifiées, qui l'a popularisé au sein de la population, par exemple à Alexandrie. Certains historiens ont parfois reproché au père leur hellénisme, qui aurait adultéré ou qui aurait modifié le message de l'Évangile. Rien n'est plus faux. Et l'on voit clairement, en particulier avec cette histoire d'Arius, que les pères, au contraire, ont réagi très vivement contre toutes les tentatives d'introduire la philosophie au sein de la pensée chrétienne pour en faire le critère, finalement, à la place de la révélation. C'est effectivement des gens comme Arius qui tendaient à ne faire du christianisme, finalement, qu'un système philosophique. On pourrait dire la même chose plus tard pour Œnone, qui a été influencé par le néoplatonisme, et on en a parlé, on a dit quelques mots à propos de la philosophie de Plotin, et là aussi, faisait du christianisme une sorte de système philosophique. Bien sûr, les pères ont utilisé parfois la philosophie, comme on l'a expliqué, pour mieux formuler leur enseignement et pour préciser des arguments qui pouvaient être reçus dans le cadre de cette pensée. Mais ils ont toujours, c'est ça qui fait leur force d'ailleurs, ils ont toujours protégé, sauvegardé l'originalité du dogme chrétien. Et donc toutes ces réfutations contre ceux qui voulaient introduire des intermédiaires entre les personnes divines, entre l'un et le multiple, pour reprendre les termes philosophiques, tout cela ne fait que souligner le fait que les pères ont toujours suivi le dogme chrétien contre les interprétations liées à certaines doctrines philosophiques. Le deuxième point qui me semble important, c'est que la période d'Athanase peut être considérée comme le début d'un tournant. Effectivement, avant Athanase, on pensait aux personnes divines surtout comme se révélant dans l'économie, dans l'histoire, le Père se révélant dans l'Ancien Testament, le Fils dans le Nouveau Testament, et qui envoie donc son esprit. Et donc on avait, si vous voulez, une vision économique au sens de dans l'histoire du salut, de la Trinité. C'est ce qu'on pourrait appeler la Trinité économique, la Trinité dans l'économie, dans l'histoire. À partir d'Athanase, il va se produire quelque chose d'autre, quelque chose de plus important, c'est-à-dire que l'on va commencer à penser aux personnes divines dans le domaine de la théologie, et pas simplement, uniquement, dans le domaine de l'économie. Il ne faut pas, bien sûr, non plus établir une cloison étanche entre la création et les personnes divines, mais les pères ont toujours insisté sur le fait que l'action de chacune des personnes s'est faite selon son mode propre. Le Fils est engendré. L'Esprit procède du Père. Le Père est la seule cause démiurgique au sein de la Trinité. À propos de la création des anges, par exemple, saint Basile écrit: dans les actes qu'il a créés, saisis-moi la cause principielle de tout ce qui a été fait, le Père. La cause démiurgique, le Fils. La cause perfectionnante, l'Esprit. Il s'ensuit que c'est par la volonté du Père que les esprits serviteurs subsistent par l'opération du Fils, qu'ils arrivent à l'être par la présence de l'Esprit, qu'ils reçoivent leur perfection. Donc on a, si vous voulez, du Père, par la volonté du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'action des personnes divines est trinitaire, elle est structurée en quelque sorte par la volonté du Père, l'action créatrice du Fils et son perfectionnement dans l'Esprit Saint. Donc, même si il n'y a pas, si vous voulez, de rang, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'ordre, il y a cependant dans la théologie nicéenne une certaine dignité entre les personnes. Et comme l'écrit saint Basile de Césarée, de même que le Fils est le second par rapport au Père en ordre, puisqu'il vient de celui-ci, et le second en dignité parce que ce dernier est son principe et sa cause, du fait qu'il est son Père, et que c'est par le Fils que se fait l'accès et l'introduction à Dieu le Père, mais qu'en nature, il n'est plus le second, parce que la divinité est unique en chacun d'eux. De même, en va-t-il à l'évidence pour l'Esprit Saint, même s'il passe après le Fils en ordre et en dignité, nous l'accordons pleinement, il ne pourrait justement s'en suivre qu'il soit d'une nature étrangère. Donc même s'il y a dans la théologie nicéenne une certaine différence de rang, de taxis, comme diraient les pères, et cette différence de taxis ne suppose aucunement une différence ou une décence. De plus, l'arianisme était extrêmement dangereux. Encore une fois, ce qui structure la pensée des pères, c'est le fait que l'homme puisse participer par grâce à l'énergie divine de l'Esprit Saint qui est donnée par le Christ. Si le Logos n'est pas pleinement Dieu, s'il n'est pas fils de Dieu par nature, alors il ne peut pas faire de nous des fils adoptifs de Dieu. Et les pères vont lutter contre les Ariens avec cette argumentation, de la même façon qu'ils lutteront plus tard contre ceux qui disent que l'Esprit n'est pas Dieu. Si l'Esprit n'est pas Dieu, il ne peut pas non plus diviniser. Il ne peut pas nous déifier. Pour qu'il nous déifie, il faut qu'il soit lui-même Dieu, de la même et unique essence que le Père et le Fils. Voici donc en gros quels étaient les enjeux, si vous voulez, de la controverse arienne, et vous voyez que ce n'était pas des petits enjeux. Cette controverse arienne va durer assez longtemps dans le courant du IVe siècle et elle ne se résoudra vraiment qu'à l'époque de Théodose. Entre-temps, je voudrais vous parler d'un deuxième personnage qui me semble important. Je veux dire Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, sa date de naissance est autour de 260-265. Il a vécu jusqu'en 339-340. Eusèbe de Césarée est un personnage tout à fait important parce qu'il est un personnage charnière entre le monde païen et le monde chrétien. Et on a longuement insisté sur le fait que le paganisme était encore bien vivace au IVe siècle et qu'il y a eu tout un mouvement de christianisation qui a été très important à l'époque. Eusèbe a vécu les persécutions de Dioclétien et le début de l'Empire. Pour lui, le christianisme est en quelque sorte l'aboutissement de tout ce qu'il peut y avoir de bon dans l'histoire religieuse de l'humanité, de tout ce qu'il peut y avoir de bon dans le judaïsme, de tout ce qu'il peut y avoir de bon dans les cultures païennes. Et donc, le judaïsme, d'une certaine façon, comme ce qu'il y avait de bon dans les cultures païennes, préparait l'avènement du christianisme. C'est un point très important. C'est-à-dire que on a vu, si vous voulez, l'importance des courants philosophiques dans le paganisme. On a vu que ces courants philosophiques avaient aussi une certaine tenue, une certaine éthique, une certaine morale, une certaine conception de Dieu, et que, au fond, beaucoup de pères vont considérer que ces courants philosophiques préparer en quelque sorte l'avènement du christianisme au même titre que le judaïsme qui, par aussi sa rigueur, qui par aussi ses commandements, préparait l'avènement du christianisme. On notera que le christianisme introduit une autre vision de l'histoire. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le paganisme avait une vision cyclique de l'histoire. C'est la conception de l'éternel retour. Avec le christianisme, nous sommes devant une vision de l'histoire complètement différente. L'histoire a un sens, qui est le sens de la révélation. Dieu se révèle dans l'histoire. Et pour Eusèbe de Césarée, la paix romaine prépare en quelque sorte la venue du christianisme sous Constantin. Donc, dans une certaine mesure, Eusèbe de Césarée annonce avec d'autres la grande adaptation de la culture hellénique au christianisme, qui sera l'œuvre du IVe siècle, et l'on peut dire que cette œuvre trouvera son achèvement et sa réalisation avec les Cappadociens. Eusèbe est donc un personnage tout à fait important. Il naquit vers 260-265, on en a parlé. Il est issu d'une famille modeste, hellénisée, et Césarée joue un rôle très important parce que c'est à Césarée qu'Origène avait établi son école après avoir été chassé d'Alexandrie. Et son disciple, Saint Pamphile, continua son œuvre. Je vous ai parlé de cette œuvre, je vous ai parlé notamment de ces exemples, H-E-X-A-P-L-E-S, d'Origène, où il avait collationné le texte de la Bible hébraïque avec les différentes versions grecques. Pamphile, donc, travaille à cette œuvre, et Eusèbe va devenir le collaborateur de Pamphile. En 303, c'est la grande persécution de Dioclétien. Pamphile est emprisonné et continue son œuvre. Et Eusèbe l'aide. Ils vont écrire ensemble une apologie d'Origène pour protester contre les attaques dont celui-ci était l'objet. Et nous ne possédons maintenant plus qu'un seul volume dans une traduction latine. En 310, Pamphile meurt en martyr, il est décapité. En 313, Eusèbe est élu évêque de Césarée. Et face à la controverse arienne, et il voulut adopter un ton mesuré. En 325, donc au concile de Nicée, il représente le parti oriental qui veut exprimer la divinité du Christ en évitant d'employer des termes qui ne sont pas bibliques. Donc, ils vont éviter d'employer le terme de homo ousios. Parce que ils craignent, si vous voulez, que ce terme ne dissimule une conception sabellienne de la divinité. On a déjà parlé de Sabellius, ça veut dire qu'il n'y ait qu'une seule essence et que le Père et le Fils ne soient finalement que des manifestations, des modes, des modalités de ce Dieu unique. Donc c'est ce qu'ils craignent dans l'utilisation du mot homo ousios. Le Christ ne serait pas alors une hypostase distincte, mais seulement un aspect sous lequel la divinité se manifeste. Et après Nicée, Eusèbe de Césarée se range dans le camp d'Eusèbe de Nicomédie, qui était hostile à Saint Athanase et aux défenseurs de l'homo ousios. Constantin lui-même, à cette époque, va suivre le parti majoritaire des évêques orientaux, qui est plutôt favorable à une réconciliation avec Arius. Et Constantin, lui, son souci principal, c'est l'unité et la paix dans l'Empire. Et pour lui, Athanase et ses partisans sont un peu des trublions. En 335, Eusèbe participe au concile de Tyr qui va déposer Athanase. Eusèbe sera assez proche de l'empereur Constantin. Il va prononcer un discours pour l'inauguration de la basilique de l'Anastasis à Jérusalem, puis à Constantinople pour le 30e anniversaire de l'accession au pouvoir de Constantin. Ses œuvres, Eusèbe est un grand savant. Il a écrit un onomasticon, O-N-O-M-A-S-T-I-C-O-N, qui est une sorte de grand dictionnaire des noms de lieux de la Bible, qui sera traduit en latin par saint Jérôme. Il va écrire aussi plusieurs commentaires. Et surtout, Eusèbe est une personnalité intéressante parce qu'il a un goût prononcé pour l'histoire. Il va écrire une chronique composée vers 303 qui est un résumé de l'histoire des peuples de l'Antiquité, qui nous est surtout parvenu par des traductions dans d'autres langues que le grec, arménienne et latine. Et puis, l'œuvre majeure d'Eusèbe, c'est l'histoire ecclésiastique. Cette histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, qui va s'étendre des origines au concile de Nicée. Et elle a un énorme avantage, c'est qu'elle rassemble des documents, des sources et des dossiers classés par ordre chronologique. Le début du livre 1 de l'histoire ecclésiastique est important. Il précise qu'il exposera d'abord l'économie et la théologie du Christ. L'économie, il veut dire par là l'activité humaine extérieure du Verbe incarné. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre vocabulaire lorsque le terme économie est employé conjointement avec le terme théologie. Eusèbe affirme que le Christ a deux natures. Par l'une, il est reconnu Dieu, par l'autre, il a revêtu un homme passible comme nous pour notre salut. Il se propose de faire le récit de toute son histoire en commençant par les choses les plus élevées et les plus importantes. Contre ceux qui prétendent que le Christ est un nouveau venu, il souligne que le Verbe préexistait à son avènement dans la chair. Il part de la génération ineffable du Verbe, il est la lumière antérieure au monde, la sagesse intelligente et substantielle qui est avant les siècles, le Dieu Verbe qui vit et se trouve au commencement près du Père. Second après le Père, il est le créateur des êtres inférieurs, comme celui qui est apparu au patriarche et qui s'est révélé par la voie de la sagesse. Il va écrire un ouvrage important sur les martyrs de Palestine. Il va écrire une vie de Constantin et des louanges de Constantin, qui vient d'être publiée dans la vie de Constantin dans la collection Sources chrétiennes. Ce sont des panégyriques, c'est-à-dire des sortes de louanges de Constantin. Une introduction élémentaire générale au christianisme, dont il nous reste que des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Une introduction donc élémentaire générale au christianisme, dont il ne nous reste que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Mais surtout, il va écrire la préparation évangélique et la démonstration évangélique. Composée entre 313 et le concile de Nicée en 325, ces ouvrages ont comme but de préparer les nouveaux adeptes au christianisme, en réfutant les accusations des païens, et en particulier celles de Porphyre et des Juifs. Si la préparation évangélique visait à détacher les adeptes du paganisme de leur superstition pour les diriger vers les Écritures, ils citent souvent des textes d'auteurs, tant païens que chrétiens, plutôt que de proposer des interprétations. Il est surtout préoccupé de répondre à Porphyre. Porphyre, vous savez, on en a déjà parlé, avait écrit un ouvrage contre les chrétiens. Porphyre était donc le disciple direct de Plotin. C'est lui qui a publié, pourrait-on dire, mis en forme les Énéades, qui sont la grande œuvre de Plotin. Et c'était un homme particulièrement redoutable, car très intelligent et hostile au christianisme. Eusèbe s'avise donc du danger que Porphyre représente. Il est très cité, et pour Eusèbe, il veut situer le christianisme comme n'étant ni l'hellénisme, ni le judaïsme, mais une véridique science divine, comme il dit. Et c'est dans le livre 10 que l'on trouve le thème assez courant à l'époque, celui du plagiat des Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, qui sont venus donc historiquement après les Hébreux, leur doivent le meilleur de leurs connaissances. Et par exemple, il va rapprocher d'un dialogue de Platon, le Timée, la révélation de Dieu dans l'Exode. C'est ça l'enseignement des Grecs. C'est-à-dire que les Grecs auraient connu, qui semble peu probable, les textes hébraïques, de leur version grecque, bien sûr. Vous connaissez le passage d'Exode 3,14. « Je suis celui qui est, ego eimi oon, celui qui est et qui ne cesse d'être. » Et il va rapprocher cette définition de Dieu du Timée en disant « Vois donc la façon dont Platon s'est coulé non seulement dans la pensée, mais encore dans les expressions et les formules de l'écriture des Hébreux pour faire sienne leur doctrine. » Lui qui l'éclaire assez explicitement en ces termes, qu'est l'être qui est toujours et n'a pas de naissance, et quel est celui qui naît toujours et qui n'existe jamais. Le premier est appréhendé par l'intelligence et du raisonnement, car il est constamment identique. Quant au second, il est l'objet de l'opinion fondée sur la sensation irrationnelle, car il naît et meurt, mais n'existe jamais réellement. N'est-ce pas là, de la part de cet homme admirable, montrer à l'évidence qu'il a transposé l'oracle qui, chez Moïse, affirmait « Ego eimi oon »« Je suis celui qui est » par le moyen de cette phrase « Qu'est l'être qui est toujours et n'a pas de naissance ?» La démonstration évangélique est aussi un texte extrêmement intéressant qui a fait l'objet d'une étude récente par Sébastien Morlet, qui est un très beau chercheur en la matière, qui y voit le second volet d'un enseignement sur la doctrine chrétienne. Eusèbe s'appuie sur la démonstration des évangiles sur des prophéties bibliques. Elles ont proclamé que le Christ, en lui donnant son nom, alors là, il faut faire une petite, petit commentaire. Effectivement, le mot « Messie » en hébreu, se dit « Meshiach ». Ça veut dire « celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint ». Si vous traduisez en grec, ce qui était le cas de la Septante, « celui qui est oint » se traduit par « Christos ». C'est-à-dire que les chrétiens lisaient en particulier dans les psaumes, mais dans toute la Septante, le nom du Messie sous la forme Christos. Et donc, l'interprétation christologique était évidente. Donc, le texte même de la Bible grecque proclame le Christ. C'est ça que dit ici Eusèbe de Césarée en lui donnant ce nom. Le Verbe de Dieu, Dieu est Seigneur lui-même, un ange du grand conseil viendrait un jour habiter parmi les hommes, qu'il serait le docteur de toutes les nations répandues sur tout l'univers, tant grecs que barbares, pour les initier à la connaissance du vrai Dieu et leur enseigner la piété envers le Créateur de toutes choses, conformément à la prédication de l'Évangile. Elles ont annoncé qu'il serait enfant, on l'appellerait fils de l'homme, c'est-à-dire que tous ces termes se retrouvent dans l'Ancien Testament. Elles ont dit que de la descendance dont il sortirait est le mode inouï de sa conception au sein d'une vierge. C'est effectivement la traduction grecque de la Septante du verset d'Isaïe, où vous trouvez le mot « parthénos » qui désigne la Vierge. Et chose plus extraordinaire, elles n'ont pas même omis le lieu de naissance en nommant Bethléem, célèbre par la foule des fidèles qui, aujourd'hui encore, s'empressent de venir la visiter. Vous savez que dans la Bible, vous avez le verset « Bethléem, tu n'es pas la plus petite ville, puisque c'est de toi que sortira le Messie. » Donc, elles ont indiqué exactement le lieu de son apparition, de même que l'époque de sa manifestation. Tous ces éléments sont présents dans le texte de l'Ancien Testament, et en particulier, évidemment, tel qu'il était lu à l'époque, c'est-à-dire dans la version de la Septante. Cette version est extrêmement importante pour le christianisme. La Bible de la Septante va devenir la Bible de l'Église dans son ensemble. Par la suite, elle sera aussi traduite en différentes langues. Les prophètes, ces historiens divins qui ont devancé l'histoire, appartiennent au troisième ordre des hommes. C'est-à-dire que Eusèbe de Césarée va introduire une notion de trois ordres. D'une part, les Juifs, d'autre part, les païens, et ceux qui, parmi les Juifs ou parmi les païens, ont déjà eu connaissance du Christ, en fait. Et il s'appuie là, surtout, sur l'Ancien Testament et sur la tradition prophétique présente dans l'Ancien Testament. Ce qu'il veut dire, en fait, c'est que le Christ s'inscrit dans une tradition prophétique qui est celle de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est pas seulement lui qui le dit, c'est le Christ lui-même qui le dit, puisque lorsqu'il apparaît à d'autres disciples d'Emmaüs, il leur montra, dit l'Évangile, tout ce qui le concernait, lui, le Christ, dans la loi et dans les prophètes. Ça veut dire que la loi et les prophètes nous parlent du Christ. La loi, ce sont les cinq premiers livres, c'est-à-dire le Pentateuch, le prophète, les autres livres. Examine donc si ce n'est pas le troisième ordre dont nous avons démontré l'existence entre le judaïsme et l'hellénisme, plus ancien et plus vieux que tous, mais annoncé récemment par notre Seigneur à toutes les nations. Ici, Eusèbe trouve un moyen, un biais, pour contrer un reproche qu'on faisait justement au christianisme, d'être une nouveauté, quelque chose qui serait apparu récemment et qui n'aurait pas de fondation, qui n'aurait pas de fondement. Ce que Eusèbe explique, c'est que ce troisième ordre est extrêmement ancien et en particulier, il s'inscrit dans toute la tradition prophétique de l'Ancien Testament. Examine donc si ce n'est pas le troisième ordre dont nous avons démontré l'existence entre le judaïsme et l'hellénisme. C'est habile aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les juifs pratiquants se convertissent au christianisme, ils ne se convertissent pas à l'hellénisme. Ils se convertissent au troisième ordre dont Eusèbe parle. Ça veut dire aussi que si les hellénistes, les Hélènes, on pourrait dire les hellénophones, puisque à l'époque il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de nation grecque, etc. Ça, c'est des choses qui sont venues bien plus tard. Mais il y a des gens qui sont de culture grecque et qui parlent le grec. Et si ils se convertissent au christianisme, eh bien, ils ne deviennent pas juifs pour autant. Ils se convertissent à ce troisième ordre prophétique dont Eusèbe nous parle. Et c'est aussi, d'ailleurs, ce mouvement que l'on trouve même au sein de l'Évangile, lorsque l'apôtre Paul va ouvrir, en quelque sorte, le christianisme à toutes les nations. Examine donc si ce n'était pas le troisième ordre dont nous avons démontré l'existence entre le judaïsme et l'hellénisme, plus ancien et plus vieux que tous, mais annoncé récemment par notre Seigneur à toutes les nations. Et ce pourrait être le christianisme qui n'est ni une forme de judaïsme, mais la règle de piété la plus ancienne de toutes et une philosophie très ancienne, quoique donnée pour loi récemment à tous les hommes de l'ensemble de la terre habitée. Par conséquent, celui qui quitte l'hellénisme pour le christianisme ne tombe pas dans le judaïsme, et celui qui en revanche se retire du culte juif n'en devient pas pour cela un grec, mais celui qui quitte l'un et l'ordre et l'autre des deux ordres, l'hellénisme et le judaïsme, accède à la loi et au genre de vie moyen, celui des hommes chers à Dieu et justes d'autrefois, que notre Sauveur et Seigneur, après un long temps de latence, a renouvelé. C'est donc bien cet ordre que le Christ a renouvelé par son incarnation. Pour Eusèbe, juifs et païens sont appelés à rejoindre cette loi et ce genre de vie qui furent adoptés par les justes des temps les plus anciens et que le Sauveur a renouvelé, après une longue interruption, en accord avec les prédictions de Moïse lui-même et des autres prophètes sur ce même développement. Si la préparation évangélique vise surtout à réfuter le paganisme et à établir la supériorité de la révélation biblique, la démonstration évangélique a une visée plus originale en reprenant l'idée d'un troisième terme entre le judaïsme et l'hellénisme. Pour Eusèbe, le christianisme n'est pas nouveau, mais existait bien avant Jésus. Eusèbe aussi prend ses distances avec l'arianisme. À une pensée plus pénétrante se révèle le Fils engendré qui ne fut pas sans exister dans un temps pour naître plus tard. Donc, il réfute l'arianisme. Mais qui était et préexistait avant tous les temps, qui, comme Fils, était toujours avec son Père, non pas inengendré, mais engendré d'un Père inengendré, Fils unique, Verbe et Dieu de Dieu. Mais pour lui, c'est là où il y a une petite trace, si vous voulez, d'arianisme. Mais pour lui, le Père est avant le Fils et préexiste à sa naissance du fait que seul il n'était pas engendré lui-même. Pour lui, l'incarnation n'est pas tant un événement totalement nouveau que la manifestation plus décisive d'une puissance qui s'est déjà exprimée. Ça, c'est peut-être, disons, une différence aussi importante dans la conception même de l'incarnation, c'est-à-dire que pour lui, l'incarnation n'est pas un événement nouveau qui transforme et qui introduit une nouveauté dans l'histoire, mais ça s'inscrit, ça concrétise un mouvement qui existait déjà auparavant. Le Verbe exerce de façon plus décisive une fonction révélatrice et pédagogique qui lui est antérieure. D'autres écrits de Zeb sont importants, mais bon, on les a plus, par exemple, contre Porphyre. On aimerait bien l'avoir, ce fameux texte contre Porphyre. La Théophanie, ou la défense d'Origène, composée par Pamphile et Eusèbe, dont il nous reste une traduction par Ruffin. Le contre Marcel, la théologie ecclésiastique. Et là, contre Marcel, Eusèbe s'oppose très clairement et avec raison à un certain modalisme de Marcel. Modalisme, on a vu ce que ça signifiait. Ça signifie que l'on considère que les personnes divines ne sont que des modalités de la manifestation de Dieu. Mais il a une théologie qui est proche, disons, d'une théologie du logos qui se fait chair, ce qu'on appelle la théologie logos-sarx, comme une union du logos avec un corps humain auquel finalement le logos tient lieu d'âme. Donc la notion même de corps humain est minimisée dans cette théologie. Le mérite de Zeb n'est pas tant dans sa théologie, qui n'était d'ailleurs pas très sophistiquée, mais dans son immense érudition, dans sa volonté d'intégrer, dans l'adresse, dans son caractère en quelque sorte pastoral, le fait qu'il essaye de convertir en profondeur ceux qui viennent de l'hellénisme et ceux qui viennent du christianisme, du paganisme, pardon, du judaïsme. Et donc il essaye d'intégrer tous ces gens dans le christianisme, et c'est ça peut-être qui fait son caractère pastoral le plus marqué. Certainement, Eusèbe de Césarée est et restera une source majeure pour la culture chrétienne. Donc voilà, nous sommes maintenant arrivés à la veille de parler de saint Athanase d'Alexandrie, dont je vous parlerai plus en détail la prochaine fois. Je vous remercie et à bientôt.